Ruquier.
Le grand oral des grandes gueules.
Avec Stéphanie Bataille, directrice déléguée du Théâtre Antoine. Bonjour Stéphanie Bataille.
Bonjour à tous et à toutes.
Votre père, le comédien Étienne Drabert, est décédé du Covid début janvier.
Le 11 janvier, il y a juste 3 semaines.
Vous avez été privé du droit de vous rendre à son chevet et même, je crois, d'assister à sa mise en bière, c'est ça?
Tout à fait. Et est-ce que j'ai le droit de raconter un
Bien
peu l'histoire, qui est une histoire évidemment personnelle, comme nous disait mon père, ça ne se raconte pas, ça se vit. Donc je l'ai vécu, je le transmets, car je pense que j'ai un devoir de mettre la lumière sur la façon dont les choses se passent actuellement en France. Je vais parler de la France parce que voilà, c'est ici que ça se passe, c'est ce que j'ai vu ici à Paris, à la Pitié-Salpêtrière, et j'ai reçu depuis une semaine des centaines de témoignages d'EHPAD et des hôpitaux publics. L'histoire est la suivante, le 13 décembre, mon père rentre à l'hôpital pour se faire poser un clip sur la valve mitrale, ça s'appelle un métraclip. Il était parfait pour pouvoir se faire opérer. Les examens étaient, tout était dans le vert. Il se fait tester au moment où il rentre à l'hôpital. Il est négatif. Il se fait opérer le 14. Le 15, le 16, le 17, on lui rend visite. Il est en pleine forme. Il a envie qu'on lui apporte des repas parce que, évidemment, je ne comprends toujours pas pourquoi à l'hôpital les repas sont pas bons parce qu'on est ce qu'on mange et ça remonte tellement le moral de bien manger. Bien. Donc, on entame.
Et quel âge a votre papa?
Mon papa, à quel âge l'avait-il?
Non, oui, quand il a...
Et 81 ans.
D'accord.
Mais il était vert, hein. C'était, voilà, et combien même il n'aurait pas été vert, c'est pas une raison tout ce qui s'est passé. Donc on lui apporte avec mon frère et ma maman un repas midi et soir, il est content, il est heureux, et je vois que son état s'entame un peu à partir du 18 au soir, puis le 19. Le service hospitalier pense qu'il a fait un AVC, alors donc on va lui faire un scanner, IRM. En réalité, quelques jours avant, il avait un peu la bouche sèche, ce qui ne m'a pas alerté, mais ça n'a pas du tout alerté le personnel soignant. Il m'a demandé de lui apporter un petit baume pour les lèvres. Il avait très, très soif. Donc, je lui apportais un peu d'eau qui pique parce qu'il aimait beaucoup ça. Et puis, ensuite, il a eu un peu une perte d'appétit. Et bon, donc, j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il a? On me dit, oh, il y a peut-être une bactérie, on va voir. Elle ne pousse pas, la bactérie. Bon, très bien. Le 19, le 20, le 21, c'est pas génial. Maintenant, il est sous masque oxygène alors qu'il n'avait absolument pas besoin d'oxygène auparavant. Un problème au poumon. Donc, je sais pas, le Covid, on vient pas juste de le découvrir, combien même.
Donc, il n'avait pas testé toujours.
Il n'a toujours pas testé, parce qu'il avait testé le 13. Quand j'ai demandé est-ce qu'on peut le tester, on ne va pas tester tous les jours, madame.
Bien sûr. Bon.
Très bien, d'accord. Donc, le 24, il décide de le tester, et on a les résultats le 26. On dit votre père est positif. Donc moi je suis ulcérée, j'appelle le chirurgien de mon père.
Donc il a attrapé le Covid à l'hôpital.
Il a attrapé le coronavirus, parce que j'ai pas envie de dire la Covid, le coronavirus à l'hôpital. On me dit bah oui ça arrive, on a du personnel soignant qui ont le virus et qui viennent travailler parce que ils viennent travailler parce qu'on n'a pas assez de personnel. D'accord. Enfin, tout ce que je vous raconte n'est pas un scoop.
Il y a des soignants qui viennent malades travailler
bien sûr.
Auprès de gens très fragiles et qui attrapent le Covid.
Tout à fait. Ils sont positifs, ils viennent travailler parce qu'on ne peut pas les tester, parce qu'on vous répond qu'on ne peut pas tester tout le temps, tous les jours. Ils ne sont pas vaccinés. Enfin, d'un autre côté, il n'y a plus de vaccin. Quand on dit qu'il y a plus 1 million de personnes qui sont vaccinées, en réalité, c'est faux. Vacciner, c'est quand on a les deux doses.
Oui.
Donc, le vrai chiffre, je crois que c'est aux alentours des 2000. Donc, il n'y a pas de quoi fanfaronner non plus. Donc, mon papa va de plus en plus mal. On lui administre des antibiotiques. Et puis, en fin de compte, le 30 au matin, on nous dit, écoutez, il va aller en unité Covid. D'accord. Donc on dit, écoutez, unité Covid, nous on rêve unité Covid, c'est-à-dire qu'il y a une unité dédiée au Covid, donc des sachants. Et là, donc je suis convoquée le 30 ce soir par deux médecins qui me disent, écoutez, votre papa va pas mieux du tout, il est en train de faire l'orage psychotinique. Donc l'orage psychotinique, pour ceux qui ne le savent pas, sont toutes vos défenses immunitaires qui se retournent contre vous. Alors je dis, mais il va se battre. Ah non, l'état est très très grave, je peux le voir. Non, vous le verrez au dernier moment.
Bon.
Ah oui, ça c'est une phrase vraiment qui est redondante en plus.
C'est quoi le dernier moment?
Voilà. Donc j'ai posé la question, mais ça veut dire quoi le dernier moment, madame? C'est très clair, le dernier moment, c'est au dernier moment. Je suis interdite, je ne pleure pas là, je suis tellement...
Vous ne pouviez pas aller dans cette unité Covid?
Non, c'est-à-dire qu'on reste devant une porte, il y a une porte opaque où il y a un code, où on n'a pas le droit de rentrer dans... derrière se trouvent les patients qui hurlent de douleur parce qu'ils ne voient pas leurs proches, mais tout ça est fermé. Ça peut rappeler des choses qui ne sont pas très lointaines.
On vous dit vous ne pouvez pas, mais on vous donne pas de raison. Enfin, on vous dit c'est quoi? C'est pour empêcher la contamination.
C'est le protocole sanitaire.
Un soignant porteur du Covid peut s'approcher de votre femme, mais vous non.
Oui, avec le masque en dessous du nez, pour la plupart, en rigolant. Mais c'est pas grave. Il y a des personnels soignants qui sont formidables, comme partout. Il y a des gens qui sont formidables et des gens qui sont un petit peu moins bien. Donc là, un petit peu moins bien devrait aller dans le très bien. Ceux qui travaillent très très bien doivent être vraiment récompensés. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la vie.
Bref. Alors ensuite, comment ça s'est passé alors?
Je suis interdite, j'appelle mon frère en larmes, j'essaie de ménager ma mère. On nous a demandé, évidemment, le 26, pardonnez-moi, c'est très important, de nous tester, parce qu'on avait des suspicions comme quoi c'était éventuellement nous qui avions passé le virus à notre père. Oui. Il faut savoir, comme la plupart des gens qui nous écoutent, et des gens donc, qui m'écrivent des témoignages, on n'a fait pas attention, on a fait hyper attention. Nous n'avons pas embrassé notre père depuis mars 2020. D'accord. Il détestait dire les gestes barrières, il appelait ça les gestes respectueux. On allait le voir, on était à 10 mètres, et maximum 8. C'est plus que de l'attention, comme la plupart des gens. Il faut arrêter de penser que les Français sont des nonos, loin de là.
Donc, ça l'a protégé, puisque son arrivée à l'hôpital, il était
tout à
nickel.
Fait.
Ouais.
Et nous n'avions pas du tout. Donc on a été testés, on était négatifs tous les trois, bien sûr. Et nous avons les tests. Et donc là, on me dit non, vous ne pourrez pas voir votre père, c'est au dernier moment. Mais je dis, mais il faut absolument qu'il sorte de cet orage psychotique. Ça va être très, très dur, madame. L'état est sérieux. Le numéro de confiance, s'il vous plaît, parce qu'on risque de vous appeler cette nuit. Il faut être costaud. Moi, je comprends que les gens s'écroulent.
Et à ce moment-là, il était conscient?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu. Donc, il était sous Optiflow, qui est une machine extraordinaire. Ce sont deux petits tubes en plastique qu'on vous met dans le nez et qui sont retenus comme une paire de lunettes, ce qui évite l'intubation et des microbes éventuellement qui pourraient rentrer dans l'intestin ou dans l'œsophage. Et au bout de deux jours, mon père sort de l'orage psychotinique. On me dit, c'est formidable, votre père est formidable. Je dis, oui, c'est un battant, vous savez, il a déjà fait 4 infarctus, donc on ne parle pas de comorbidité. Il en veut et il n'a pas du tout envie de partir. Donc, on a juste le droit de lui apporter à manger, donc on se met devant la porte avec le code et on donne le repas de notre père du midi et du soir avec les vêtements propres et on dit, ah non, désolé, vous ne pouvez pas le voir. Mais vous pouvez y aller, mais si je m'habille comme vous, madame, étant moi réellement négative, est-ce que je pourrais y aller? Les infirmières ont fait un forcing pas possible auprès des médecins en disant que l'état de mon père commençait à se dégrader parce qu'il ne nous voyait pas. On avait juste le droit de le voir à travers une tablette, des iPads qui sont dans l'unité Covid.
Mais vous ne pouvez même pas rentrer masqué avec une bouse.
J'ai tout proposé, mon frère a même dit. Mais
là, on est dans le protocole absurde.
On est dans la folie pure.
Oui,
on est dans
c'est dingue.
Dans la folie pure. Et donc, on voyait notre père qui nous disait Stéphanie, Stanislas, sortez-moi de là, je vais crever. Sortez-moi de là, je vais crever.
Il disait ça.
Bien sûr.
Via l'iPad, vous disiez sortez-moi de là.
Bien sûr. Et nous, on a tout essayé. J'ai vraiment tout essayé. J'ai tapé très, très haut. Mais je ne suis pas la seule. Mon cas, je parle au nom de dizaines de milliers de gens.
En quoi des médecins peuvent avoir l'autorité de vie ou de mort sur les gens?
C'est le pouvoir. C'est le pouvoir des.
Alors attendez, parce que vous avez essayé de monter un chef de service, un responsable de l'hôpital.
J'ai fait appeler un ami à moi qui est urgentiste, neurologue, et qui maintenant travaille pour les pompiers de Paris, en disant que c'était une honte ce qui se passait. C'est comme ça. C'est non.
Protocole.
Oui, protocole. Donc, l'état de mon père a commencé à se dégrader. Il ne mangeait plus. Donc, nous, on était extrêmement inquiets. Et
il était dans quel service à la Pitié-Salpêtrière?
Alors, en neurologie, au pavillon Marguerite Bottard. Géré, si on doit dire, parce que c'est un peu ça, c'est de la gestion, ce n'est pas du tout de l'humanité. Moi, mon appel, c'est un au secours à l'humanité et à la dignité. Oui. Et que je n'ai pas. Je pense vraiment que je ne peux pas avoir quelqu'un en face qui puisse me dire le contraire.
Et
j'ai envie de dire à tout. Pardon, je vais vous raconter.
Oui,
je veux dire, pardon, excusez-moi. Dans un monde où chacun triche, c'est l'homme vrai qui fait figure de charlatan. Je ne dis que la vérité. Vraiment, que la vérité, quand je vois les témoignages de ce qui se passe dans les EHPAD, c'est effrayant. Mon papa s'est absenté donc le 11 janvier, donc il s'est épuisé parce qu'il pleurait, on l'a vu en larmes, et je peux vous dire que c'est terrifiant. Mm-hmm. Et il est rentré en cardiologie, on disait « Ah oui, il y a un problème cardiaque bah, ». Parce qu'évidemment, il s'épuisait, vous savez, de tristesse. Il y a des gens qui, quand ils se font quitter, peuvent, évidemment, le cœur peut lâcher d'émotion. Et donc là, on a eu le droit de le voir. Et là, je suis rentrée dans la salle d'hôpital, dans sa chambre, le 9. Ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire, mais c'est ce qui existe. Tout nu, dans son lit, dans son pipi, les mains attachées. Je peux vous dire que vous voyez votre père, vous pouvez voir votre mère dans des conditions comme ça, c'est juste intolérable.
Là, il était en radiologie. Il était sorti
de l'unité. Non, pas en radio, en cardiologie.
En cardiologie, oui. Il était sorti de l'unité Covid.
Oui, parce que problème cardiaque qu'il ne pouvait pas gérer parce qu'on n'a pas les bonnes machines au bon endroit et qu'il n'y a aucun lien entre les différents services. C'est absolument hallucinant. Il faut réformer l'hôpital, mais pas. On va pas faire une réunion et un comité d'urgence. C'est tout de suite. Tous les gens qui ont fait ça, il faut qu'ils s'en aillent. C'est la honte totale. Et mon pauvre père, se débattant, je ne comprenais pas très bien ce qu'il me disait. Steph, pu. Et donc il était complètement sur une couche, tout nu. Et on dit c'est normal. On n'a pas le temps de les habiller, donc on les laisse comme ça. Je sais pas. On se bat contre la maltraitance animale. À un moment donné, oui. C'est très important. Quoique ça va pas non plus quand on nous dit que les poussins, on arrêtera de les broyer en 2022 pour qu'on n'arrête pas tout de suite. Tout est complètement, on marche sur la tête. J'en appelle, je ne sais plus à qui. Il va falloir que les choses s'inversent. Mon papa, donc ensuite, les infirmières sont venues, l'ont remis au propre. Et puis le lendemain matin, on nous a dit qu'on lui donnait de la morphine et il s'est absenté définitivement.
Donc il était en fin de vie. C'est la morphine qui l'a aidé à partir.
Je ne peux pas vous dire. On me dit que c'est juste pour le soulager parce qu'il était nerveux. Il était nerveux parce qu'il était dans son pipi. Il était nerveux parce qu'il voulait nous voir. Et on ne pourra pas me contredire. Ensuite, on nous a dit qu'on pouvait se recueillir devant lui pendant une heure. On a fait des pieds et des mains pour l'avoir un peu plus avec nous. Et on nous a dit qu'après, pardon.
Non, je vous en prie.
C'était terminé, qu'on ne pourrait plus le voir. Et donc, il a été mis dans une sorte de sac poubelle avec son tout nu. On n'a pas le droit d'habiller les gens qui ont le Covid. Au secours, maman, je vous assure, arrêtez ce massacre avec une étiquette Covid. Donc, si jamais vous avez le Covid et que vous êtes à l'hôpital, sachez que c'est comme ça que ça se passe. Et nous n'avons pas le droit de faire l'adieu au visage. Et on vous présente le cercueil une demi-heure avant que les pompes funèbres viennent le récupérer pour la messe ou d'autres rites, enfin, d'autres confessions religieuses. Excusez-moi,
non, mais... je vous en prie. Mais pardon. Entre le moment où votre père est rentré à l'hôpital et le moment où il est décédé, en fait, vous n'avez pas pu le voir une seule fois.
Il est rentré à l'hôpital le 13, le 14,
le 14 opéré, décembre,
le 15, le 16, le 17, le 18, jusqu'au 29, on a eu le droit
Où il a été diagnostiqué Covid. Et alors là, ça a été terminé.
Diagnostiqué Covid, il est resté quand même en unité cardiologie, en soins intensifs cardiologie. Bon, voilà, ils ont essayé, je pense, des protocoles, mais ils l'ont laissé. Donc nous, on avait le droit de venir, même si lui avait le Covid. On a pu rentrer avec une housse, habillé, excusez-moi, c'est l'émotion, avec une blouse, les gants, la charlotte, et les surchaussures. Et alors qu'on nous dit que les gants, c'est très très mauvais, moi, on a quand même demandé à ce qu'on. Parce que les gants, évidemment, on peut passer le virus. Et voilà donc ce qui s'est passé. Donc on ne l'a plus revu, il nous a plus revu en vrai du 30 décembre au 10.
Non, mais ne pas. Franchement, je suis vraiment très touchée. Franchement, je suis bouleversée par votre témoignage. Et vous racontez ça avec, c'est grave, quoi.
C'est très grave.
Le pire, ce que vous dites, c'est que on peut pas les habiller, quoi.
Non.
C'est quand même.
Ils sont tous comme ça.
C'est impressionnant.
C'est ce qui s'est passé à Rungis.
Mais
c'est ça exactement. Enfin,
l'État a des comptes à rendre, quoi.
Ah, tout à fait.
Pas qui pose des protocoles comme cela. Comment on peut avoir des soignants qui sont porteurs du virus et qui ont accès aux malades, et comment on peut refuser à des familles d'accéder à leurs proches, surtout en fin de vie?
Enfin, qu'il ne devrait pas être en fin de vie, madame.
Je ne sais pas, mais
oui, parce qu'il n'aurait pas dû attraper le Covid à l'hôpital.
En plus, mais moi, je crois que le président de la République vous doit une réponse. Quoi.
Ben, bien sûr, mais je n'en avais pas.
Alors, il y a une réponse de Martin Hirsch.
Hospitalier.
Alors, il y a le patron
Mais vous l'avez vu, la réponse.
Oui, alors, voilà, je voudrais la donner pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, puisqu'il a tenu une conférence de presse. Martin Hirsch, c'est le patron de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Il dit, l'idée que la famille n'ait pas eu accès à la chambre du malade n'est pas vraie.
Oui, à la fin de vie. Bien sûr, on l'a vu en fin de vie, au dernier moment.
Quand vous demandez Monsieur
Martin Hirsch, si j'étais vous, je démissionnerais. Vraiment. De toute façon, nous avons pris un avocat. On a pris la décision hier soir parce que trop c'est trop. Ce genre de propos sont insupportables et mensongers, bien sûr. Nous portons plainte contre X pour non-assistance en personne en danger.
Non mais là il dit que vous avez accès, vous savez, c'est une histoire de timing en fait. Il dit oui, vous avez accès, mais ce qui serait intéressant, c'est que Martin Hirsch dit quand est-ce que vous avez eu accès?
Au dernier moment.
Voilà, au dernier moment. Et c'est bien.
Et on vous a prévenu en plus que quand vous aurez accès.
Et quand j'ai vu le professeur Verny, qui est le professeur en gérontologie, ça fait peur pour nos aînés, parce que je déteste dire le mot de vieux. Je trouve que aîné, ça peut être. J'ai un frère aîné, c'est mon cadet, je suis sa sœur, je suis plus grande que lui. quelques années près. Mais ça veut dire quoi, au dernier moment? On laisse mourir les gens au dernier moment?
Alors, selon le site d'assistance publique Hôpitaux de Paris, les visites des patients hospitalisés sont organisées par les équipes médicales et la direction de l'hôpital dans des créneaux horaires déterminés. La visite d'une personne par patient et par jour est cependant autorisée.
Absolument pas.
C'est ce qui a marqué sur le site.
Oui, mais bien sûr, mais c'est complètement faux.
Pas respecté.
Non, c'est complètement faux, c'est très grave. Retirez ça, monsieur. Ne donnez pas d'espérance aux gens. Ce n'est pas vrai. Quand les gens sont en unité Covid, c'est interdit. Il manque du personnel. Il manque du personnel. Au secours. Formez des gens. Prenez soin des gens, s'il vous plaît.
Etienne. Mais alors, déjà, en dehors même de j'ai vécu, c'est pas aussi grave, mais j'ai vécu des choses comme ça, en dehors même du Covid. C'est-à-dire que déjà, sur l'inhumanisation de l'hôpital, c'est clair. Là, faut savoir que ce qu'on vous a privé de vivre, c'est presque ce qui fait que c'est notre humanité. C'est-à-dire ce qui fait qu'on est des hominidés.
Des humains.
On est hominidés à partir du moment où on a fait le culte de la mort à partir du moment. Et là, on ne vous a pas laissé faire le truc qui est basique.
Bien sûr.
Aussi basique que
ça. Mais on vous l'interdit. On interdit tout.
Et donc, automatiquement, c'est une remise en cause presque de votre condition de
femme, d'homme avec un grand H.
Avec le grand H.
Bien sûr. Et oui.
Et que s'est-il passé ensuite après la mort?
Ensuite, moi, je ne sais même pas si c'est mon papa qui est dans le cercueil. Comme des milliers de gens.
Vous l'avez pas vu?
Non.
C'est le frigo.
Vous n'avez pas vu la mise en bière?
Non. On a interdiction d'assister à la mise en bière. Même Patrick Peloux a appelé la présidente. C'est comme ça que ça se passe. Plein de gens ne savent pas si c'est vraiment leur père, leur mère, leur sœur, leur frère, leur mari ou leur femme dans le cercueil. On a interdiction d'assister à la mise en bière.
Pourquoi? Parce qu'il a eu le Covid?
Oui. Alors qu'on sait très bien, et Patrick Peloux me l'a redit, une fois que l'on meurt, ça n'est plus transmissible. Mais alors, et si je mets un masque, en plus, je parle quelque chose de délirant, puisqu'il n'aurait jamais dû, comme des milliers de personnes, mourir là.
Oui.
À ce moment-là, il le disait. Mon heure,
c'est un tabou. Hein, le Covid à l'hôpital, c'est un tabou.
Mais parce qu'on a peur, on inculte la peur.
Il y a des foyers dans des hôpitaux en ce moment. Il y a des clusters.
Oui.
Il ne devrait pas y avoir de clusters, puisqu'à priori, les soignants devraient être ceux qui les plus protégés, en fait.
Mais ce n'est pas nettoyé, les hôpitaux ne sont pas nettoyés.
C'est que moi, j'ai écouté Patrick Peloux en avril.
Il le disait déjà.
Dire c'est impossible que ça se transmette d'un mort à un vivant. Et qu'aujourd'hui, on soit toujours dans ces règles-là. En fait, c'est la sclérose de notre État qui est incapable de répondre à des vérités.
Vous avez tout à fait raison.
Ça, c'est quand même invraisemblable.
De cet exemple personnel que vous racontez avec beaucoup pudeur, maintenant il va y avoir une plainte, vous avez beaucoup de témoignages comme le vôtre?
C'est énorme. J'ai honte quand je les lis. Des gens qui sont au bout du bout, qui n'ont pas eu la possibilité de parler, qui envoient des courriers à l'Élysée, qui envoient des courriers au ministère de la Santé, ils n'ont aucune réponse.
Des gens qui ont eu de la famille coincés à Rungis pendant plusieurs semaines avant de pouvoir faire l'enterrement.
Quand ils ont pu le faire, parce qu'il y a des gens qui sont toujours à la recherche de leurs parents. Hein,
mais non.
Qui bien sûr, ils n'ont toujours pas retrouvé le corps. Parce que les étiquettes, parce qu'ils ont des étiquettes Covid avec un numéro.
Et souvenez-vous, au début, on n'avait même pas le droit de t'assister à l'enterrement. Édouard Philippe avait dit non.
Quatre personnes après.
C'est une honte absolue. J'ai honte de ce pays.
On a perdu un peu d'humanité.
Pas un peu, complètement. Là, on est en train. Mais on a tout perdu.
C'est sûr, c'est basique.
Un monde. C'est un monde, c'est inimaginable.
C'est la peur qui nous pousse à.
Mais oui, mais alors qu'on devrait être. Le coronavirus doit nous apprendre à être humain, doit nous apprendre l'humanité. Plus on va être comme ça, à se fermer, le coronavirus va être de plus en plus violent, je vous le dis.
Et les gens sont terrorisés.
Les gens ont peur, mais c'est pas possible.
C'est un traumatisme très dangereux pour les gens qui le vivent, c'est-à-dire que les conséquences, là vous l'exprimez et c'est formidable, mais les conséquences psychologiques sur ce sentiment de ne pas avoir pu aller au bout de l'accompagnement...
De l'avoir abandonné.
Chose qu'on va payer cher.
Mais d'avoir abandonné. On est dans un sentiment de culpabilité.
On va le payer.
Mais ça va être terrible. J'alerte nos politiques, ça va être terrible. Mais vraiment terrible. J'ai des témoignages. J'appelle, je réponds à tous les mails que les gens m'envoient. Je voulais vous dire que j'ai fait une pétition sur change.org qui est importante pour l'humanité et la dignité. Vous rendez compte le combat que je mène?
Mais en plus, du point de vue sanitaire, il n'y avait pas de raison d'empêcher tout ça.
Non. D'accompagner simplement. Son proche, quoi.
Ben oui, et d'attraper le Covid à l'hôpital, d'attraper le Covid à l'hôpital, on ne peut pas me dire que c'est une maladie nosocomiale et dire comme ça, c'est pas possible. Non mais c'est hallucinant. Donc les gens vont avoir peur d'aller se faire soigner. Tout le monde là, les opérations, ils ont obligé d'annuler 50% des opérations. Les gens vont se retrouver avec des cancers pas soignés. Ils sont au stade 1, ils vont arriver au stade 4. Mais c'est un carnage total. Je vous en supplie, à l'aide, écoutez-moi. Je parle pour tous les Français. Mon histoire peut devenir votre histoire demain. Je ne le veux pas. Et pour ceux qui ont vécu la même chose que moi, je demande une réparation et des excuses, et au-delà des excuses.
Merci Stéphanie Bataille d'être venue témoigner sur RMC Story dans les GG.